Das Vorspiel. Willkommen auf Generation Soccer.
Vous êtes sur Generation Soccer. Están escuchando a Generación Soccer.
Bonsoir à tous, il est 23h07, on est sur Génération Soccer avec nous. Ce soir il y a Piro.
Bonsoir.
Et bien sûr il y a Billy qui fait son retour pour dans la radio.
Bonsoir à tous.
Au programme ce soir, Ligue 1. Au programme aussi la Serie A avec... On parlera aussi peut-être que Espoir sera de retour pour nous parler de la Bundesliga. On parlera aussi du championnat portugais avec toi, Piro. Et puis ben, on va commencer par ce championnat triste de Ligue 1. Inutile de vous dire que ce soir la tristesse de beaucoup de fans de Ligue 1, on va dire, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Je vais pas commencer tout d'abord par la Ligue 1. Enfin, pas par la Ligue 1, par ce terrible match entre Lyon et Marseille, hein, et on aura l'occasion d'en parler. Mais d'abord, on va parler parce qu'il y a eu quand même des buts, hein, aujourd'hui avec ce fameux Nice-Lille, où Nice, plutôt Lille n'avait plus gagné depuis le 6 mai 1989, donc ça remonte pas mal de temps, hein. Ça remonte à un peu plus de 20 ans.
Presque ouais, voilà. 20 ans,
ouais. C'est ça. Donc Lille qui fait la bonne affaire, on dira de cette journée, avec Toulouse et PSG aussi qui font les bonnes affaires. La bonne affaire pour le Paris Saint-Germain, oui, qui reste dans les hauteurs du classement, puisque Paris reste quatrième avec Bordeaux. Et puis ben, quand on regarde ce classement, on voit, sans parler du match qui est arrivé, on voit Lyon, Marseille, Bordeaux, Paris. C'est les grosses équipes de retour, hein.
Ouais, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça quand même en championnat de France, quoi. Que les équipes historiques sont au tableau et que pas qu'on retrouve le Paris en bas de tableau, etc. Donc ça apporte un peu d'attrait, on va dire, en plus ça fait pas de mal, quoi.
Exactement. Vas-y.
Ouais. Et et Paris doucement mais sûrement fait son joli petit championnat, j'ai envie de dire.
Exactement. Ouais. Et puis ben, je pense que toi qui as suivi toi qui suis la Serie A, notamment la AS Roma, t'es d'accord avec moi que quelqu'un.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu pareil. Ouais. On peut faire un petit comparatif, quoi. Et, début de saison discret. Bon, catastrophique pour la Roma, quoi. Et après, une bonne série. Et voilà. Et comme quoi, le PSG a bien fait de pas paniquer pour une fois. Pas virer son entraîneur. Et très bien fait de garder Le Guen, qui est un gars sérieux. Et avec lui, on crie jamais. On n'est jamais dans l'état d'urgence, quoi. C'est un gars qui sait garder son calme et tout. Et, ça fait. Ouais, non. Très bien, quoi. J'ai envie de dire. Le PSG peut jouer sa petite place en Champions League cette saison, sans aucun problème, je pense.
Exactement, le Paris Saint-Germain, on a vraiment l'impression que c'est la bonne satisfaction de cette saison. Faut rappeler que je parlais de ce championnat d'Italie, parce que Giuli était à l'AS Roma. Je pense que un gars comme ça apporte son expérience, apporte sa culture de la gagne, on va dire, dans une équipe qui était pendant un peu plus de deux saisons entraînée déjà par l'entraîneur déjà Paul Le Guen. Déjà la saison c'était pas terrible quand il était arrivé, hein, on se souvient la saison passée où Paris allait presque descendre en Ligue 2, c'était presque inévitable, aux dépens de Lens d'ailleurs. Et puis ben on a vu aussi les années suivantes, enfin plutôt passées, quoi, les quelques années, les surtout je pense à ces deux saisons qui sont passées. Et donc c'est vrai que quelqu'un comme Makelele, Giuli, Landreau qui fait de moins beaucoup moins de bourdes, je trouve. Et donc, bah, c'est vrai que ça fait plaisir, en fait, de revoir enfin, on va dire, du suspense, parce qu'on parlait, on beaucoup parlait depuis que Lyon est champion, enfin, disons, depuis la fameuse année où Monaco avait 10 points d'avance sur Lyon. Je sais pas si beaucoup de
si, si, saison 2003-2004, ouais, je
exactement.
Me rappelle.
Et puis qui s'était fait rejoindre par Lyon, qui avait terminé avec 3 points de retard sur Lyon. Monaco qui a accusé le retard par rapport à la Ligue des Champions, hein, puisqu'ils
ouais,
sont
ouais,
arrivés
ouais.
en finale.
C'est...
Et qui avait perdu en, qui avait quand même éliminé le Real Madrid, qui avait éliminé le Chelsea, et qui était tombé sur le FC Porto, n'est-ce pas, Pierrot?
Oui, bah, justement, je voudrais pas parler d'un peu de Lyon par rapport à Monaco. J'étais peut-être un peu hors sujet, mais je pense que ça, le parcours de Monaco, c'est aussi une mentalité. Justement, Lyon, ils sont un peu la mentalité championnat, alors que Monaco, ils avaient joué sur l'Europe. Donc, je vais pas prolonger sur ce sujet plus longtemps, je vais m'en tenir à ça.
Non, mais c'est juste, et moi je pense que tu dis une bonne chose, que c'est peut-être ce qui fait défaut à Lyon en Coupe d'Europe, c'est que de toute façon, leur priorité sera toujours d'être champion de France. Alors que bon, c'est logique, j'ai envie de dire, quoi, voilà, je pense qu'ils devraient lâcher un peu plus du lest s'ils veulent faire des vraies performances en Coupe d'Europe et se dire, bon, bah, cette année on fait deuxième, troisième. On est en Champions League tout de même, mais voilà, on se réserve plus pour la Ligue des Champions, quoi. Mais je trouve que c'est leur petit défaut, moi, à l'OL, quoi. C'est de toujours, avant tout, gagner le championnat et au dépens d'un vrai résultat en Coupe d'Europe, quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord.
Si, si, tout à fait d'accord, hein. Mais de toute façon, ça démontre un peu, moi qui suis beaucoup ce club, je peux vous dire que quand vous avez un Jean-Michel Aulas qui d'un côté vous dit Lyon dans 5 ans est là pour en remporter la Ligue des Champions, qu'on va tout faire pour gagner, pour garder Benzema. Quand tu entends des phrases comme ça et que tu lis dans les phrases et que tu sens que la première priorité, les joueurs le savent, c'est de gagner un 7e titre, c'est de gagner un 5e titre, c'est de gagner un 6e titre.
Ouais, c'est ça.
Voilà quoi, donc je pense que il y a toujours cette culture de, on va dire, d'essayer d'un peu de rattraper Marseille et Paris d'un.
Non, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais.
Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émissions sur le fait que Lyon était largement moins aimé que des équipes comme Marseille, Paris ou Bordeaux, Saint-Etienne, enfin, les équipes, on va dire, historiques du championnat. Même le FC Nantes, même Lens, Reims, enfin, ainsi de suite. Il y a quand même. Même toutes ces équipes qui ont une âme, et c'est vrai qu'on beaucoup reproche à Lyon de pas avoir d'âme, en fait, entre guillemets, et que les supporters ne sont pas poussés par cette équipe lyonnaise.
Pierrot.
Oui, à part Lens qui est une identité communautaire par rapport au nord de la France, tous les autres clubs que tu as cités, ils ont construit leur légende par la Coupe d'Europe.
C'est pour ça que je les ai cités, ouais.
Ah, il n'y a pas de secret. Mais pour venir au PSG, moi, je voulais dire, j'ai remarqué cette année, quoi, je suis très loin champion de France, vous le savez. Mais je me suis dit, tiens, ce qui serait peut-être une des raisons de leur réussite, quoi, c'est de ne pas avoir recruté des Brésiliens en carton pour une fois et tout, ou des joueurs venus de nulle part. Parce qu'on remarque que deux joueurs clés de cette année, c'est Cessegnon et Waro. Voilà, des joueurs qui ont leur bagage en Ligue 1, ou Haro qui était meilleur buteur du championnat de France de Ligue 2.
Exactement.
Et je pense que ça fait la différence, quoi, de pas laisser son attaque au premier Brésilien venu, voilà, etc. Et je pense que c'est une des différences par rapport aux saisons passées et aux saisons passées en général, j'ai envie de dire, ces 10 dernières années, où Paris s'est trop souvent perdu en achetant des joueurs innommables, je dirais.
Exactement, on peut parler des deux, hein, brésiliens qui ont été d'ailleurs nommés dans le trophée du ballon de plomb, hein, qui est le trophée quand même pour un très très dommageable pour un joueur, on va dire. Bon, là c'est comme par hasard Frédéric Piquen qui a été nommé, chose qui est, je pense, normal, hein. Tout le monde serait d'accord avec moi. Mais bon, dans la liste, il y avait quand même Zubar, JV, les deux fameux Brésiliens que
c'est
le PSG
Ara, là, et je sais plus
avait acheté, Everton et Souza, hein, qui étaient vraiment.
Ah oui, voilà, oui, c'est ça, oui, Everton et Souza.
Qui étaient vraiment voilà. Des joueurs de faits pour la Ligue 1, en fait, tout simplement. Non, mais plus sérieusement, voilà, je suis content de parler enfin du. Enfin, d'entendre en tout cas cette saison qu'on. Parler de cette équipe de Paris Saint-Germain en tant que positif, on va dire. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de peine de savoir qu'un club comme Paris, avec tout ce qu'on sait sur cette équipe, bah, avait été dans les fins fonds du classement. Et là, on voit une équipe qui n'a plus peur d'abord de son public, parce qu'on se souvient dans les saisons passées que le Parc des Princes était très difficile, en tout cas à gérer.
Moi, je voulais, toi qui es lyonnais, là, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que Benzema, il marque pas un petit coup d'arrêt là, cette saison au championnat, là, enfin actuellement, pardon, depuis le dernier mois, quoi. Je vois qu'il avait bien démarré la saison et voilà, il a l'air d'être dans une petite période de méforme, je dirais.
Bah, c'est sûr que, enfin, c'est pas une méforme, mais c'est vrai que. On va dire qu'il est toujours dans les mêmes statistiques que l'année dernière, puisque même en Ligue des Champions, il a fait le boulot. Mais c'est vrai que peut-être que par rapport au choix de l'entraîneur, hein, je vais en parler par rapport à ce match qu'il y a eu ce soir, qui est vraiment décevant et c'est indigne d'un soi-disant sommet de Ligue 1. Je suis vraiment furieux et je pense que chaque supporter, et je pense aux supporters qui ont été là-bas à Gerland, je parle de ça parce que on critiquait Alain Perrin l'année dernière, personne n'a trop critiqué Gérard Houllier parce que pour moi c'est l'entraîneur de référence qui avait quand même l'expérience, parce que Paul Le Guen, bon, c'est vrai qu'il avait institué ce 4-3-3 et c'est vrai qu'il avait quand même la culture de la gaine, c'est lui qui a un peu fait vivre cette équipe en fait, même si c'est Bernard Lacombe qui avait commencé à entraîner Lyon dans les années 2000 ainsi de suite, en faisant venir le fameux buteur Sonny Anderson. Mais c'est vrai que on se souvient j'en parlais hier, des 7-2 en Ligue des Champions, des 5-0 en championnat. Où est-ce qu'on a vu ça maintenant avec Lyon, je parle? Où est-ce qu'on a vu ça quand on voit que je vais annoncer le résultat, puisque je pense que tout le monde est au courant. 0-0. Voilà, 0-0. De toute façon, quand je parle d'un résultat Ligue 1, c'est un 0-0, match fermé avec beaucoup de fautes. C'est vraiment n'importe quoi. Et donc, c'est un coup de gueule, et je pense que justement le fait de vous avoir, toi Billy, Pierrot, Espoir avec Dizzy ainsi de suite, et ben justement avec toi Billy, ben on aura l'occasion d'en parler du classique.
Plus, je sais pas.
Ouais, je disais qu'on aura l'occasion de parler de ce match qui s'est déroulé tout à l'heure en Serie A, Juve AS Roma, où il y a eu beaucoup de buts, donc je pense que tu seras. De toute façon, tu es largement d'accord en ce qui concerne la Serie A. Je connais ton opinion. Juve Milan, oui, pardon. Donc, on va commencer déjà par ce qui s'est passé tout à l'heure avec Nice-Lille. Donc, je disais qu'il n'avait plus gagné Lille qui n'avait plus gagné là-bas au Stade du Ré depuis 1989. Nice qui restait sur deux défaites en trois matchs. Nice avec qui les Niçois se demandaient comment se fait que personne ne les aime, qu'on parle pas beaucoup d'eux, et c'est vrai que Nice peut-être redescend un peu dans ses hauteurs, c'est-à-dire à la place où moitié de tableau, on va dire. Et c'est vrai que quand on parlait d'un choix entre Nice et Rennes, c'est vrai qu'on voit plus Rennes en tant que confirmation plutôt que Nice. On a vraiment l'impression que Nice n'est pas trop n'est pas trop dans les hauteurs du championnat, mais bon, ça reste quand même une bonne surprise, on va dire. Donc voilà, Lille qui marque, et par d'ailleurs Bastos qui avait été interrogé sur ses possibilités de départ de Lille, et quand on sait qu'il y a beaucoup de Lillois dans cette équipe lyonnaise, je me dis que c'est vrai que Bastos est un bon joueur, mais qu'est-ce qu'on va encore aller chercher Bastos, quoi, parce qu'il, bon, c'est vrai qu'il est assez bon sur coup franc, qu'il fait quand même une très très bonne saison, hein, on peut le dire, qui, je crois, en est à son 10e but, mais quand même, quoi, faut arrêter les délires, et c'est vrai qu'il connaît très bien Claude Puel, mais quand on voit les Keita, bon, Bodmer, c'est un cas à part. Makoun, il me déçoit là ces derniers temps, puisqu'il est souvent remplaçant à partir de la 60e, et ben c'est vrai que cette équipe de Lille me plaît, voilà, elle me plaît, cette équipe de Lille, et ça me fait chier un peu pour Lille qu'on aille récupérer les bons joueurs de Lille pour on parle de Rami aussi qui est très bon, on parle de Hazard, enfin c'est du n'importe quoi, et je pense que le président Michel Seydoux devrait un peu fermer cette équipe lilloise, et donc Lille a un très bon milieu de terrain, et donc voilà, bonne victoire de Lille qui est historique, et Lille qui continue sa belle remontée dans le classement, puisque Lille est 7e. Et voilà, Nice qui reste juste derrière, 8e, avec le nombre égalité de buts. Donc voilà, c'est dommage pour Nice. Et puis ben, y a un autre match qui s'est déroulé, c'est bien sûr Le Havre-Lorient, avec le premier but de Vairuya de cette saison, un superbe lob, alors que le gardien havré était avancé. C'est vraiment magnifique. On connaît tous la qualité de Vairuya, et c'est vrai qu'il a souvent mis de beaux buts. Et ben celui-là, on est encore un chef-d'œuvre. Et donc c'est très bien pour ces Lorientais. Gamero qui continue à marquer de buts, et puis Le Havre qui va changer d'entraîneur, enfin plutôt qui va Modilo qui va être apparemment manager général, et qui va, on parle de Frédéric Hans, hein, l'ancien coach du Mans et de Sochaux, qui avait été viré très très vite. On parle de lui comme remplaçant. Donc très dommage pour cette équipe havraise, qui un peu comme disons Sochaux va sûrement descendre en Ligue 2, je pense. C'est comme ça de toute façon. Donc bonne victoire de Lorient à l'extérieur. Le Havre qui n'est pas du tout dans ce championnat, hein, qui je crois deux victoires en 18 ou 19 journées, je sais plus. C'est vraiment pas terrible. Voilà, Le Havre qui est dernier avec 12 points. C'est devant, il y a Sochaux avec 13 points, Valenciennes avec 14 points, Valenciennes et Sochaux qui ont gagné, et puis Suve Saint-Étienne qui est retombé dans ses travers, puisque après la première défaite, enfin la première victoire sous l'air Perrin avait gagné, hein, devant son public, et là a rechuté. Oui, Pierrot, pour le Havre.
Oui, bah finalement c'est pas une surprise de voir Le Havre dernier. Je sais pas s'il y a un souci dans le club, mais ils ont mis 5 ans à remonter en Ligue 1, et on sait déjà qu'au dernier passage en 2002-2003, c'était déjà que pour une seule saison, donc je pense qu'ils retiennent pas les leçons du passé, et bah ça se paie cash en Ligue 1. Hein.
C'est sûr, mais comme on l'avait déjà dit précédemment, quand tu as un gardien qui s'appelle Mandanda, quand tu as un attaquant qui s'appelle Waro, qui marche très bien avec Alassane, qui à deux faisait une bonne paire d'attaquants dans ce championnat de Ligue 2, je peux te dire que ça fait très très mal, quoi. Je ne sais pas ce qui serait passé si ces deux joueurs seraient restés dans cette équipe havraise. On ne peut pas savoir quel serait le résultat immédiat, mais sachant que Waro avait eu du mal au début, mais c'est vite intégré à ce jeu de Ligue 1, notamment je pense à son jeu de tête, hein, qui était très très décrié en tant que, en disant qu'il était assez faible. Et c'est vrai que bah, il s'est aguerri, le Waro, malgré son âge, quoi. Il a pas l'âge de Benzema qui va avoir 21 ans là dans les jours qui suivent. Et c'est vrai qu'on fait souvent un comparatif entre les deux, mais Waro, je crois qu'il a 3 ou 4 ans de plus. Donc très dommageable pour cette équipe havraise qui va sûrement descendre en Ligue 2. Et puis ben de son côté Lorient qui est dans le milieu du championnat, 9e, entraîné par Gourcuff, voilà, qui avait fait un bon début de saison, qui avait battu Marseille d'ailleurs, tout le monde se souvient, au Vélodrome. Voilà donc pour ces deux matchs qu'il y a eu cet après-midi. Ben on va commencer à 23h, bientôt 23h30 sur ce fameux match, hein, le classico, on va dire le deuxième classico. Oui Pierrot, avant qu'on enchaîne sur ce match, sur Gamero justement.
Oui, je suis plutôt content de voir l'éclosion de Gamero à Lorient, hein, parce que ça nous évitera d'avoir Nimani dans l'équipe de France Espoir, et ça c'est déjà un progrès.
Bon, c'est vrai que Gamero, beaucoup de gens le critiquaient en tant qu'attaquant, en disant que c'était peut-être pas l'attaquant pour Lorient. Donc voilà, et puis Gamero qui fait son petit chemin qui continue son petit chemin. Je crois qu'il en est à son cinquième but, puisqu'il avait marqué aussi contre Marseille, justement. Il avait marqué le but de la victoire avec un face-à-face avec Mandanda. Voilà, donc on va parler de ce match Lyon-Marseille, hein. Donc tout le monde en a fait un patatrac. On va dire qu'il y a eu des matchs dans le match. Les retrouvailles entre Lloris et Koné, les deux anciens niçois, les retrouvailles bien sûr entre on en a fait tout un plat entre Ben Arfa, Benzema, hein, les petits pics entre les deux par journal interposé, hein, vraiment du ridicule. Et c'est vrai que les médias aussi ont un peu voulu faire monter la mayonnaise, et ça s'est pas loupé sur le terrain. On parle aussi, il y a aussi les deux postulants en équipe de France, hein, en tout cas au niveau des gardiens, Mandanda, Lloris, voilà, c'est un peu le match dans le match, hein, on a souvent ça, on se rappelle du fameux Barthez coupé, hein, avec ce magnifique tifo dans le virage nord de Gerland, coupé numéro 23, mais numéro 1 en équipe de France, hein, on sait ce qui est arrivé par la suite. Donc voilà, c'est un peu des souvenirs qui viennent. Et puis durant depuis que Lyon est champion, j'ai le souvenir d'une seule victoire de Lyon en ces terres en recevant Marseille. C'était entraîné à cette époque par Gérard Rouillet, il me semble, avec un but de Thiago et un but énorme d'une belle reprise de volée de Sidney Govou, qui sur un dégagement d'un Marseillais, je crois que c'est DU, oui voilà c'est ça, c'est DU si mes souvenirs sont bons, qui en fait remet la balle sur Govou qui est au 20 mètres et qui ne se pose pas de questions, mais une bonne énorme reprise de volée, Barthez est dans le goal, et donc c'est un 2-1 pour Lyon. Sinon ça a été tout le temps des victoires, pratiquement des victoires marseillaises, surtout que Marseille sur les trois derniers déplacements à Gerland avait battu Lyon en ces terres, que ce soit en Coupe France, on se souvient du fameux but de Mamadou Niang, et puis justement ce joueur là était absent, hein, aujourd'hui, puisque il est blessé pour 6 semaines, donc il reviendra pendant la seconde période de ce championnat. Et donc quand même un joueur important, hein. Je sais pas ce que vous en pensez de Niang, mais c'est quand même un grand buteur de ce championnat.
Ouais, enfin il fait surtout plus d'1m70, ce qui est ce qui est pas négligeable.
C'est vrai que je sais pas si tu dis ça par rapport à ce que je pense, mais c'est vrai
c'est un beau trio qu'il y avait. Koné, Valbuena, Ben Arfa. Bon, Ben Arfa il est un peu plus grand, mais quand même. Karim Ziani.
Oui, c'est vrai que c'est à ça que je pensais aussi. C'est vrai que quand on a vu un peu un duel entre Valbuena et Fabio Grosso, c'était assez risible. Hein, où il s'attrapait un peu Valbuena attrapait le tibia de Grosso. On avait l'impression que c'était un fils avec son père. C'était vraiment très très drôle. Un peu comme j'allais dire un Ronaldo, peut-être pas celui de Manchester parce que ça n'a rien à voir, mais celui de qui était à Milan AC et qui a signé là-bas au Brésil. C'est un peu comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il était qu'il est un pointe et qui attend qu'on lui donne la balle et qui après peut faire quelque chose. Un peu comme à la Trezeguet. Benzema, c'est autre chose. Et donc il a besoin de récupérer. C'est vrai que beaucoup attendaient de Benzema. Il a fait quelques petits trucs, mais il était quand même messieurs, on l'a pas trop vu. Il y a eu une bonne période de Sidney Govou, hein, qui a été justement apprécié dans une interview par Zinedine Zidane, et je le rejoins, même si Govou on l'a un peu perdu de vue au fur et à mesure que le match s'est écoulé. Et puis c'est vrai que vers la fin, il y a une grosse domination de Lyon dans les dernières minutes. Et c'est vrai que ce qu'on peut reprocher, c'est que le match était fermé, il y a eu beaucoup de fautes. Et je pense que si Monsieur Bray, qui était l'arbitre de ce match au sommet, on va dire, il aurait fallu d'un rouge. En tout cas, il a distribué beaucoup de jaunes, mais on avait vraiment l'impression que le fait que ce soit Lyon, que ce soit Marseille, que ce soit regardé par beaucoup de personnes, le fait qu'il ait un peu peur de faire du zèle et de sanctionner vraiment, parce que quand vous voyez Ben Arfa qui fait une seconde faute énorme, je sais plus sur quel joueur, je crois que c'est sur Ederson, ça mérite le rouge direct. Et puis les simulations de Juninho, pareil, ça mérite peut-être pas un rouge, mais en tout cas c'est de l'anti-jeu. On avait aussi de l'anti-jeu du côté des Marseillais, mais pour résumer, un match fermé, et puis aucune équipe n'avait envie de perdre. Voilà, on peut résumer ça comme ça.
Je suis pas d'accord là.
Vas-y.
En prenant les compos, on devine que Marseille, Guéret, il a deviné que Puel est très prévisible. C'est une composition classique, mais quand on prend celle de Marseille où t'as seulement Loric Sané en milieu défensif, alors que d'habitude il en joue avec 3 ou 2, là il joue avec un seul. Comme joueur offensif, on a Zenden, Ziani, Valbuena, Ben Arfa, Koné, et c'est quand même bizarre que Lyon face à une équipe comme Marseille qui est fragile défensivement et qu'avec un seul milieu défensif n'arrive pas à mettre complètement en difficulté cette équipe de Marseille.
Je peux te dire que quand tu voyais des attaques lyonnaises, parce qu'on n'en a pas vu beaucoup, hein, d'une part et d'autre, c'était plus des vilaines fautes. Ça se rendait les coups pour coups. Et je peux vous dire qu'il y avait deux joueurs qui montaient sur ceux qui avaient le ballon au pied. Et puis tu avais tout le reste de l'équipe de Marseille qui restait dans cloîtré, on va dire, en défense. Et qui faisait un bloc défensif, c'est tout. C'est-à-dire que Marseille n'espérait pas le match nul et espérait peut-être réagir en contre par rapport avec la rapidité de Valbuena, qui est capable d'éliminer, de Ben Arfa qui était positionné juste devant Koné et Valbuena. Et donc c'est vrai que voilà quoi, quand tu regardes ça, tu te disais que voilà quoi, à partir de la deuxième mi-temps, vu comment s'était arrêté le match avec toutes les fautes qu'il y a eu, tu te disais bon, on espère que la deuxième mi-temps sera autre et que les entraîneurs passeront un bon petit coup de gueule en leur disant arrêtez les gars et jouez le jeu quoi, putain, y a des gens qui vous regardent. C'est un sommet de Ligue 1. C'est vrai que ce sommet-là, il a été comment dire, on en a beaucoup parlé, on avait fait pas mal d'histoires. Et c'est vrai que parmi tous les Lyon-Marseille qui a pu avoir durant les années depuis la on va dire 1950, quelque chose comme ça, c'est vrai que c'était un sommet, quoi, puisque et je l'avais même marqué sur Soccer. C'est vrai que depuis que Lyon est champion, enfin entre guillemets depuis la saison entraînée par Paul Logan justement en 2003-2004, où Lyon fait un terrible sprint, Lyon à partir de la 10e journée ne s'est jamais fait rejoindre. Donc je pense que si ça avait été le cas, comment aurait réagi Lyon, parce que Lyon n'a plus gagné depuis le 16 novembre. Ils ont fait une défaite au Parc, un match nul, un terrible match nul face à Valenciennes, hein, l'état de la pelouse c'était du n'importe quoi, on se croirait dans une piscine. Et puis ensuite, bon, il y a eu le fameux match en Ligue des Champions, puis il y a la défaite avant le match de Ligue des Champions, puisque c'était pour ça aussi c'était pour la Ligue des Champions que le match avait été repoussé de Nantes au lieu de samedi à dimanche. Le match se joue samedi et patatrac, un joueur qui a été vachement hué, que ce soit partout la Ligue 1, on va dire, en tout cas les supporters, Klachnik qui vient marquer un doublé en recevant Nantes qui n'avait plus gagné depuis justement 2003-2004 en recevant Lyon. Donc depuis aucune victoire depuis le 16 novembre, aucune victoire en Ligue 1. Et franchement, il est 23h43, c'est vrai que Lyon n'a pas été devancé, mais si Lyon continue comme ça, avec déjà 3 défaites, je crois, puisqu'il y avait Rennes, il y avait Paris et donc il y avait une Nantes, je pense que c'est pas du tout un rythme de champion, puisque je crois que ça fait quand même beaucoup pour avoir suivi pour suivre l'équipe depuis pas mal de temps. Je peux vous dire que ça fait très longtemps que l'équipe n'a pas en 16 ou 18 journées n'a pas pris 3 défaites de suite. Enfin 3 défaites en 16 journées ou 18 journées, c'est quand même c'est pas digne d'un champion. Je sais pas ce que vous pensez tous les deux, hein, Espoir, Billy et Pierrot, mais quand on connaît Lyon, 3 journées, 3 défaites avec, c'est vrai, pas beaucoup de matchs nuls, mais beaucoup de 3 défaites en 16 journées pour être champion, alors sachant que on l'a dit, hein, Marseille, Bordeaux, Paris, bon ensuite il y a Toulouse et Rennes qui sont pour moi les bonnes surprises. Je sais pas ce que vous pensez, mais c'est vrai que quand on regarde le nombre de points, hein, il y a Toulouse 30, Rennes 31, Paris 32, Bordeaux et Marseille égalité avec 32 points, et puis on a Lyon qui est 35. Alors moi je veux bien qu'on dise oui, mais Lyon a un banc mieux que les autres, mieux que ses poursuivants. C'est vrai. Mais je peux vous dire que cette année, j'ai un peu de mal je sens pas trop Lyon champion. Espoir, tu veux réagir par rapport à ça?
C'est un peu le même problème qu'il y a en Bundesliga avec le Bayern, mais bon, j'y reviendrai plus tard. Mais on peut pas non plus toujours penser que c'est les mêmes qui vont être champions. Je pense qu'il faut aussi laisser la place de temps en temps à d'autres équipes, même si on supporte justement les équipes comme Lyon ou le Bayern. Moi, je pense que les autres ont leur chance, donc voilà, quoi, pourquoi pas.
Pierrot, pour réagir.
Oui, tu dis que Lyon a un grand nombre de défaites pour un potentiel champion, mais on voit bien qu'il n'y a personne pour faire mieux.
C'est vrai que là je te rejoins en partie, parce que c'est vrai que beaucoup disaient c'est Lyon qui est devant, Lyon écrase la concurrence. C'est vrai que cette année Lyon est prenable. Déjà l'année dernière on a bien vu que c'était plus cette fameuse machine à tout écraser qui écrasait la concurrence. Là on a vu que déjà Ben Arfa est parti à Marseille, On a vu, bon, c'est vrai que de son côté, Lyon, on l'a dit, a pris beaucoup de bons joueurs de Ligue 1, notamment de Lille, de Nice, dans son effectif, notamment aussi de Metz avec Pjanic qui est blessé, qui reviendra en mars. Mais c'est vrai que Marseille, comme Bordeaux d'ailleurs, avait l'occasion. Bordeaux, d'abord, on va commencer par Bordeaux. Bordeaux aurait gagné, ou en tout cas aurait fait match nul. Est-ce que ça aurait été pareil? On ne le sait pas. Bordeaux a reçu quand même un bon coup sur la tête. Marseille, qui avait l'occasion plusieurs fois, on se souvient de cette fameuse journée avec à la veille le fameux match nul des familles, le fameux 0-0 entre Auxerre et Lyon. La journée qui suivait, c'était le fameux choc entre Marseille et Paris. Paris qui gagne à Marseille. Marseille qui avait l'occasion de dépasser Lyon, en tout cas soit de dépasser, soit de les rejoindre à un point. C'est tout ça qui fait que. Allô? C'est tout ça qui fait que Marseille a eu beaucoup de coches et ne l'a pas pris. A eu beaucoup de virages et ne les a pas pris. On se souvient aussi de ce fameux.
Ouais.
Ouais.
Ils ont jamais su profiter des faux pas de l'OL, c'est toujours pareil, quoi.
Exactement, et c'est vrai que.
Pour Marseille pourrait avoir 5 points d'avance sur l'OL. Et combien de fois ils ont pris des cartes qui sont battues par l'Orient, etc. C'est pas normal, quoi. Marseille,
Exactement.
pour devant, là.
Bah, je sais que Marseille n'a pas la carrure, c'est tout, hein. Seul Lyon a la carrure en France. Bordeaux, je pense que ça va venir, mais enfin, faut dire qu'à la base, les clubs, ils avaient beaucoup de retard sur Lyon, et là, on voit enfin Bordeaux, Marseille, Paris en haut du tableau. C'est déjà dur de s'installer. Après, pour viser plus haut, c'est encore une autre étape, et donc, je pense va falloir au moins attendre la saison prochaine.
Peut-être que tu as raison, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années qui suivent, on sent que Lyon est de plus en plus prenable et que les autres équipes sont aguerries. On voit Bordeaux avec Gourcuff, avec Wendel. On voit de son côté Marseille, hein, qui a la meilleure attaque du championnat, qui est derrière Lyon. On voit aussi Paris, hein, on en a parlé. Paris qui reste sur 7 victoires d'affilée. Je pense que c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal pour ce championnat, même si, encore une fois, quand on parle de choc entre Lyon et Marseille, bah, il ne tient pas du tout ses promesses et je suis déçu comme beaucoup de personnes, hein. Quand on voit le nombre de fautes commises, que ce soit Lyon, il y en a 18, que ce soit Marseille, 22, c'est du grand n'importe quoi. Je pense qu'on va, sauf si quelqu'un veut réagir. Oui, Pierrot qui veut réagir sur. Alors que je disais que Puel était quelqu'un de. On reprochait son manque de. Enfin, plus sa défensive que l'attaque.
Oui, je pense que la plus grosse faiblesse de Lyon, c'est Claude Puel. Justement, le match de ce soir, c'est très représentatif de son état d'esprit. C'est Lyon a l'occasion de prendre 3 points, de prendre 3 points de plus d'avance sur Marseille, et ben on voit que Manon, tout ce qu'il pense, c'est garder la première place, alors qu'il reste beaucoup de journées et que 3 points d'avance, ça peut très vite partir. Et là, je sais pas combien il y en a actuellement d'avance. 3 points d'avance, bah, avec 6 points, c'est pas pareil, hein. Et pourtant, il se contente de 3 points, et alors que 6 points d'avance, ça permettra à Lyon de se dire, on peut se donner à fond en Ligue des Champions, alors que là, la marge de manœuvre, elle est très réduite.
C'est vrai, mais beaucoup de. Comme Dizzy le rappelait souvent.
C'est la bienvenue en Ligue 1.
Voilà, et puis bah, on parle de la froideur de Puel qui on sait que pour avoir vu beaucoup de matchs de Lille, c'est d'abord pour lui un bloc défensif. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de flottement dans la défense avec notamment Boumsong. Bon, on a vu Mensah qui a été mis complètement à droite alors que non, alors que c'est pas du tout son poste, hein. On l'a vu un peu en difficulté. Chris qui revient bien. voilà quoi. On a vu un Toulalan qui a fait, on va dire, qui a fait le boulot. Karlström qui était la surprise en tant que titulaire. Puis bon, bah, Ederson, j'ai pas trop d'habitude. Juninho, pour moi, n'a pas fait son match. Govou et Benzema.
D'ailleurs, j'étais choqué par la coupe de cheveux de Juninho.
S'il y a ça qui, il y a que ça qui te choque, ça peut aller. Mais...
non, mais tu sais, de manouche, là, de gitan,
c'est horrible. C'est vrai que Juninho, il a un peu le. Il essaye un peu de changer de look. Hein. Je me souviens de ses premières années avec une espèce de choucroute sur la tête, hein, un truc sur le.
Ouais, un casque.
Exactement. Et puis après, vers les années 2004, il y a eu la fameuse, enfin, les cheveux longs. Puis il a fait aussi très, il a pu faire aussi très très court. Et c'est vrai que là dernièrement, il se laisse un peu, comme tu dis, les cheveux.
Il se chamalise.
Mais bon, ouais. C'est vrai qu'on parle beaucoup de, on parle moins de la coupe de cheveux de Juninho, on parle plus de ses simulations en ce moment. On parle aussi de
ses coups de pied sur les portes.
Voilà, exactement. Et c'est vrai que Juninho, on parlait d'un vrai faux gentil, quoi, entre guillemets, qui peut avoir, on va dire le, qui peut être gentleman, c'est-à-dire quand il y a un joueur qui se blesse, il est capable de le lever, d'être quelqu'un de potentiellement sympathique, mais qu'au fond, peut-être qu'il joue un peu de son expérience du fait de son fameux pied, hein, qui est un des meilleurs tireurs de coups francs. Mais il faut dire que il a eu 2-3 coups francs à tirer de Juninho, et je peux vous dire que moi j'avais envie de lui dire Juninho, change ton pied s'il te plaît, parce que là tu nous as pris le pied d'un rugbyman. Voilà pour ce triste spectacle qu'il y a eu à 20h à 21h. Là, Lyon qui est premier avec 35 points, mais bon, c'est un magnifique 0-0. Voilà, j'espère que si Lyon n'est pas champion, je pense que ce sera en partie à cause de son jeu et de son entraîneur. Faut dire que les blessés n'ont pas aidé aussi, hein, puisque Réveillère est out jusqu'à la fin de saison, hein. Fin de saison pour Réveillère. Puis il y a Bodmer et Piani qui vont revenir à peine au mois de mars. Donc quand même, Lyon aura déjà joué la Ligue des Champions. Je dis aura joué parce que je vois mal Lyon passer les huitièmes. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à, non seulement à la Ligue 1, mais aussi par rapport au match de Ligue des Champions, puisque ça tombe très bien, Espoir suit le championnat d'Allemagne, qui est supporter du Bayern, et puis bah, Billy qui je pense suit un peu la Fiorentina. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Lyon en Ligue des Champions?
Ben, moi je les ai trouvés plutôt, comment dire, contre le Bayern au deuxième match, ils sont complètement passés à côté de leur match, surtout en première mi-temps, et c'est ce qui, je pense, a été fatal. Ils ont marqué ensuite 2 buts, mais beaucoup trop tard, je trouve, et puis c'est ça qui a payé. Après, sur le match aller, quand ils avaient joué à Munich, ben c'était, enfin, j'ai trouvé que c'était quand même autre chose. Ils avaient mieux joué que en face de leur public. Donc après, sur les autres rencontres, je les ai pas vu jouer, donc je peux pas vraiment dire, quoi.
D'accord. Billy, toi, une petite idée par rapport à...
Ben non, moi Lyon, c'est le seul truc que je reproche, c'est qu'ils ont joué un peu trop avec le feu, en se faisant mener au score et en faisant des remontées spectaculaires et tout. Ça ne marchera pas à chaque fois, et puis surtout à des matchs à élimination directe, ça sera beaucoup plus dangereux. Mais sinon, honnêtement, quand j'ai vu le tirage au sort en septembre, je me suis dit, peut-être Lyon cette année, ils vont passer à la trappe. Et parce que c'était un groupe vraiment pas évident, quoi. Bah, par exemple, leur victoire 2-0 sur le terrain de la Fiorentina, je peux vous dire que c'était pas un mince exploit. Et voilà. Et puis bon, après, ils perdent le dernier match face au Bayern, mais vous avez apparemment laissé un peu de côté ce match-là, quoi. Mais bon, après, pour ce qui sera du parcours à partir des huitièmes de finale, comme d'hab, je pense pas, je vois pas aller très très loin, surtout avec Puel, comme tu dis, qui a pas l'air d'être très très convaincant. Voilà.
Exactement. Donc, ben, je rappelle que j'ai demandé cet avis, même si on en a déjà parlé, mais c'est quand même bien d'avoir l'avis de gens qui ne regardent pas la Ligue 1 spécialement, je dirais même pas spécialement, mais carrément à 100%, qui s'intéressent de très très loin, je pense. Hein, je pense qu'en disant ça, vous trois, je me trompe pas, que ce soit Pierrot pour le Portugal, Billy pour l'Italie et Espoir pour la Bundesliga, l'Allemagne. Je pense que c'est important pour les auditeurs d'avoir une vision de ce qu'on perçoit de cette équipe lyonnaise à l'étranger. Pierrot pour parler de Lyon en Ligue des Champions.
Je vais parler du Portugal. Comme vous le savez peut-être pas, ou vous le savez, peu importe. Le FC Porto est premier de sa poule, donc il est susceptible de rencontrer Lyon. Et je peux vous dire que pour Porto, Lyon sera un bon tirage vu tous les autres deuxièmes. Même le meilleur, si on compte que Villarreal serait meilleur que Lyon.
C'est vrai, mais c'est vrai que quand on va annoncer, là j'annonce vite fait, puis après on va passer justement à la Serie A, c'est vrai que les premiers deux groupes sont Roma, Panathinaikos, on voit Barcelone, Liverpool, Manchester, Bayern, Porto et la Juve. C'est vrai que, à part, comme tu le disais, le Panathinaikos qu'on voit un peu plus faible.
Bah, tout le monde veut tomber dessus, hein.
C'est vrai que bah, j'ai vu une petite interview de Juninho qui disait surtout pas le Barça ni Manchester.
Ça serait bien le Panathinaikos.
Je fais magnifique imitation du Brésilien. Non mais la Juve pour moi c'est même pas la peine et puis voilà quoi. Bon, de se prendre le Bayern c'est pas possible, mais Barcelone, Liverpool, hein, quand on sait que le mal qu'ils ont fait à Marseille, même si Liverpool, bon, pour l'instant, est en tête de son championnat d'Angleterre. Mais bon, Rome, on sait le mal qu'ils nous ont fait. Et Barcelone, on se souvient de ce fameux 3-0 là-bas au Camp Nou.
Et ce qui m'a amené l'Inter à 9 points devant la Juve et Milan avant le match de ce soir. Voilà, donc un nul et l'Inter gardait 8 points d'avance sur le duo et une victoire et en gros une victoire de la Juve ou de Milan. Et c'était un peu le match à élimination ce soir. On allait savoir qui allait être le vrai adversaire de l'Inter plus ou moins. Et c'est ce qui s'est un peu passé. En fait, bon, voilà, je vais venir sur le match de ce soir. Je peux aller au salag, monsieur?
Oui.
Ouais, attends, je vais me rapprocher de la box. Voilà, maintenant, faut me dire si ça va. Donc, oui, très important, le Milan. Aujourd'hui et hier, lors des dernières séances d'entraînement, a perdu Mathieu Flamini et Riqui Caca sur blessure, alors qu'il y avait déjà sur le flanc Alessandro Nesta, Bonera, Borriello, Gattuso, dont la saison est terminée. Et voilà, donc Ancelotti se retrouvait avec deux nouveaux éléments en moins. Donc c'était vraiment surtout Kaka quoi et Flamini qui était prévu pour remplacer Gattuso. Donc comme ça à la dernière minute c'était pas évident. La Juve elle avait toujours ses trois blessés de longue date, c'est-à-dire pas des moindres, hein, Poulsen, Trezeguet, Buffon, mais gardait son onze type titulaire des dernières semaines, qui l'a amené à faire une très bonne série et à revenir dans le haut du classement en Serie A. Donc le match, donc il y a plu toute la journée, donc terrain un peu dégueulasse, mais match intense, joli match, hein, forcément 6 buts. au bout d'un quart d'heure de jeu, Jankulos qui concède un penalty sur Del Piero. Donc en fait, au départ de l'action, Del Piero est tout de même hors jeu, il paraît. Mais Jankulos qui fait une espèce d'intervention à la mort-moelle-neuve dans la surface, quoi. Penalty indiscutable, Del Piero le tire en force et ouvre le score. Une minute après, Ambrosini a l'occasion d'égaliser de la tête, son point fort, et il envoie le ballon dans les airs. Mais il faudra pas attendre longtemps, il faudra attendre quelques minutes, je crois la demi-heure de jeu, et pour l'égalisation du Milan, qui a réussi à revenir donc dans un, qui a réussi à revenir dans le match dans un premier temps, et c'est en fait Ronaldinho qui adresse une jolie passe décisive au jeune Pato, qui égalise donc à la, voilà, la 31e minute de jeu. Et on pense que Milan a fait le plus dur et est revenu dans le match. Et finalement, 3 minutes après, Chiellini sur corner, le défenseur italien va redonner l'avantage à la Juve. Il est totalement libre de tout marquage. Voilà, erreur défensive du Milan AC. Et puis juste avant la mi-temps, Amaury, cet attaquant qui a coûté 22 millions d'euros cet été à la Juve et qui arrive en provenance de Palermo et qui confirme tout le bien qu'on pensait de lui. Alors, il y a déjà 28 ans, certes. C'est ce joueur qui hésite encore au niveau équipe nationale entre le Brésil et l'Italie. Et il en est, avec son doublé de ce soir, il en est déjà à 10 buts cette saison. Bref, sur un centre de Decelie, encore un jeune de la Juve, il marque tranquillement de la tête. Marquage laxiste. Oui, Dan?
Je voulais te parler d'un fait de match quand même. C'est l'expulsion quand même d'Ambrosini,
Non, de Zambrotta.
de Zambrotta, pardon. Oui, qui
Ouais.
est un ancien de la Juve, qui a été quand même apparemment hué par le public. Moi,
Ah
qu'est-ce que tu
ouais.
peux nous en
Bah
dire?
ouais, donc c'est la tradition chez les Juventini de huer tous les joueurs qui ont quitté le navire l'été 2006
Oh, oui.
après le Calciopoli. Alors c'est-à-dire Cannavaro, Emerson, Vieira, Ibrahimovic, Zambrotta en gros. Cannavaro, quand il était revenu avec le Real jouer là il y a 2 mois, s'était bien fait siffler copieusement, mais Zambrotta c'était pas, c'était la bronca, surtout que Zambrotta dans les journaux n'avait pas hésité à déclarer que voilà, qu'en gros il était quand même bien content de quitter la Juve, qu'il se sentait roulé, etc. Et donc les supporters l'ont vraiment mal pris. Et comme tu dis, bah, ça va être le tournant du match, quoi. Donc Amaury marque le troisième but avant la mi-temps. Alors 3-1. Ancelotti choisit de faire entrer Shevchenko dès la mi-temps à la place d'Emerson. Et Ambrosini va marquer d'un but détourné, une frappe détournée à la 55e minute de jeu, 3 buts à 2. On pense que le Milan alors peut vraiment revenir dans le match. Et finalement, Zambrotta est exclu quelques minutes plus tard. Il fait une deuxième faute, enfin deux cartons jaunes. Une faute pas digne d'un joueur de son expérience, quoi. Il laisse le Milan à 10 et là c'est un peu la débandade. Amaury marque le quatrième but dans la foulée. Del Piero touche le poteau et le Milan essaye tant bien que mal de résister et de concéder le moins possible. Donc voilà, victoire 4 à 2. Résultat qui pour ma part ne me surprend pas. Moi je pensais bien que le Milan allait perdre ce soir. Ce soir, je dirais qu'on a vu la différence entre une équipe qui a été construite pour gagner le Scudetto comme la Juve et une équipe qui a été construite pour vendre des maillots comme le Milan. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Ça donne le Milan à 9 points à quelques jours de la trêve et déjà presque hors course pour le Scudetto alors que c'est le seul objectif sérieux qu'ils ont cette saison, puisqu'on rappelle que les Rossoneri ne disputent pas la Champions League et sont en Coupe de l'UEFA. Il y a une question de la part d'Espoir.
Ouais, moi en fait je voulais savoir, comme tu suis un peu donc Milan, ou j'aimerais savoir qu'est-ce que t'en penses de Sanderos.
Alors, Philippe Senderos, c'est un peu le joueur mystère du début de saison. Donc, il arrive en fin de mercato en prêt, ce qui est quand même rare, quand même, un club du standing du Milan AC de se faire prêter un joueur. C'est généralement les petits clubs hein, qui font ça. En plus, très payant, assez onéreux, visiblement. Voilà, Wenger a été malin sur ce coup-ci. Et il s'est rapidement blessé. Apparemment, c'est un joueur qui se blesse assez fragile. Si bien qu'on l'a vu à l'œuvre réellement début novembre en Coupe de l'UEFA. Et il a joué 2-3 matchs. Il n'a pas joué encore une minute en championnat. Et il a joué quelques matchs en Coupe de l'UEFA. Il n'a pas été rassurant du tout. Bah, on n'ose pas le blâmer parce que bon, il revient tout doucement, quoi. Mais je pense pas que ce soit un joueur qui soit adapté au championnat italien. Enfin, j'ai l'impression qu'il est quand même très lent, qu'il met 50 ans à se retourner et tout, etc. Et bon, donc il est là en prêt. Je suis pas sûr qu'il reste, quoi. Et puis ouais, il est super fragile et ce qui est d'autant plus comment dire frustrant, quoi, quand un joueur de la carrure de Senderos est tout le temps blessé, quoi. Donc et puis en plus il aurait bien fait du bien en ce moment, quoi. Et comme quoi, pour démontrer qu'il remplit pas son rôle, le Milan a déjà acheté un nouveau défenseur, un Brésilien, étonnant, l'énième Brésilien, qui s'appelle Thiago Silva de la Fluminense, c'est 24 ans, qui arrivera cet été au Milan AC pour 10 millions d'euros. Voilà, encore un Brésilien, un de plus. Voilà, à savoir si ce sera un bon achat, moi j'ai des gros doutes. Donc oui, voilà, ce soir Milan a montré qu'il avait de grosses limites, qu'il avait, je ne pense, pas une équipe construite pour le Scudetto au niveau de l'effectif, avec pas mal de joueurs sur la fin, en manque de motivation. Je pense à Zambrotta, qui est quand même bien en deçà de son niveau de ses meilleures années. Je pense pas qu'il va retrouver son meilleur niveau. Emerson, Shevchenko, qui a fait 45 minutes affreuses ce soir. Voilà, même Ronaldinho, qui a pas été super, super, et Pato, qui selon moi peut pas être titulaire d'une équipe comme le Milan AC. Si le Milan AC veut être champion d'Italie, c'est ce qui manque au Milan, voilà, un vrai attaquant qui marque 20 buts, quoi. L'Inter a Zlatan, la Juve a Maori, mais le Milan a Pato qui marque 4 buts et qui perd 15 ballons par match, voilà, c'est assez frustrant. Également, et petit coup de chapeau par contre à Maldini, qui du haut de ses 40 ans a encore été le meilleur parmi les défenseurs rossoneri, qui a encore fait un très bon match, voilà. Côté tifosi rossoneri, on se raccroche une fois de plus à l'éternel capitaine Rossonero. Dan, en parlant de capitaine, t'as une question sur Del Piero?
Je remarque que, comment dire, que c'est vrai qu'en Serie A, enfin plutôt la Serie B, on l'avait vu marquer pas mal de buts, hein, notamment des buts décisifs pour la remontée de cette équipe de la Juve. Et je sais pas, j'ai l'impression de voir un nouveau souffle de Del Piero. Non seulement déjà par son on va dire son fait de, quand il marque son but, tu sais, il tire la langue, j'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau pour lui, enfin pour moi en tout cas, et j'ai l'impression que qu'il revit, quoi. Est-ce que tu peux nous...
Bah alors Del Piero, après une période difficile, on va dire, quand Capello entraînait la Juve et Capello n'hésitez pas à mettre sur le banc, il a retrouvé son statut de leader de la Juve en finissant meilleur buteur de Serie B il y a 2 ans et meilleur buteur de Serie A l'an passé, tout simplement, devant David Trezeguet. Il a eu 34 ans au mois de novembre et il a déjà planté 4 buts en Champions League. En championnat, il a dû, c'était son 5e but ce soir. Il est comme le vin, il vieillit très bien. Et il est toujours titulaire indiscutable et c'est un leader. C'est la trempe des grands champions pour moi, ça trompe pas, quoi. C'est un joueur qui a constamment été remis en question dans sa carrière et qui a toujours su montrer, que toujours prouver aux gens qui critiquaient qu'ils avaient tort. Et voilà, je rappelle que ce soir c'était son 251e but sous le maillot de la Juve. Ce qui n'est pas, je sais pas si vous vous rendez compte, quand même 250 buts.
C'est énorme.
En 15 ans, voilà, c'est un peu lui et Raoul. J'aime beaucoup les comparer parce que je trouve qu'ils ont des trajectoires assez similaires. Voilà, c'est des joueurs fidèles qu'on remet discrets et qu'on remet sans cesse en question, mais qui au final démontrent toujours qu'ils sont là. Et en plus, c'est des joueurs qu'on va trouver de moins en moins, je pense, dans le monde du foot, quoi, un peu à l'ancienne et tout, concret, etc. Et donc voilà, je pense que on doit en profiter encore quelques temps. Pour conclure, donc voilà, ce soir,
parle-nous de Maori aussi.
Oui.
Un Maori, j'aimerais bien que tu nous en parles, et en disant aussi une deuxième chose, j'aimerais bien que tu nous, parce que je sais pas si tu l'as dit, que le Milan du Milan AC, enfin manquait de pas mal de joueurs. Il y avait, je crois, Gattuso, Kaka, qui n'était pas là.
Ouais, c'est ça. Donc je vais te parler d'Amaury. Ouais. Donc c'est un joueur qui a une trajectoire assez particulière. Alors il paraît que donc il est arrivé plutôt assez jeune en Italie, et au Brésil il était même pas professionnel, il était semi-pro, je crois. Il travaillait dans une charbonnerie, tu vois, et il est arrivé en Italie. Il a joué dans plusieurs clubs, notamment à Naples, et après il s'est vraiment révélé au Chievo Vérone. On lui a resté quelques saisons, mais il n'avait jamais dépassé. C'est un joueur qui marquait, pour un attaquant qui ne marquait pas beaucoup. Et puis, une saison, il a passé pour la première fois la barre des 10 buts, et il a fini à Palerme, et là, il a complètement explosé. C'est un joueur puissant, mais aussi très technique, vraiment complet, quoi, qui se bouge sur tout le front de l'attaque, qui va chercher les ballons, qui joue sur les côtés. Un joueur vraiment actif que moi j'aime beaucoup. Le Milan était dessus pour cet été, voulait l'acheter, quoi. En fait, Amaury allait plus ou moins chez le plus offrant, et il est allé à la Juve pour 22 millions d'euros. Et je regrette, moi, en tant que tifoso rossonero, de ne pas l'avoir dans nos rangs, parce que c'est un joueur qui connaît très bien la Serie A, hein. Ça doit faire presque, allez, 8 ans maintenant, facile qu'il y ait, quoi. 7-8 ans. Et puis, donc, il y a cette particularité qu'il n'a pas encore de sélection nationale. Alors, est-ce que c'est un opportuniste? Moi, je pense que oui. Parce qu'il attend plus ou moins une convocation de Dunga, qui a du mal à arriver. Et il s'est proposé, ouvertement, à Marcello Lippi, qui le suit de très près. Maori serait italien par mariage, en fait, s'il vient en équipe d'Italie, parce qu'il est marié avec une italienne. Mmh. Et ça fait un an qu'on en parle, quoi, et c'est vrai que l'équipe d'Italie, à la limite, j'ai envie de dire, aurait bien besoin d'un joueur de la sorte, quoi. Mais bon, ça, pareil, ça reste des sujets toujours, surtout moi qui suis pointilleux là-dessus, quoi. Des sujets un peu controversés. Et pour revenir sur le Milan, oui, ce soir, c'était un peu l'hécatombe, hein, comme je te disais. Il y avait un bon nombre d'absents avant, enfin déjà la semaine dernière. On a perdu Gattuso cette semaine, saison terminée, les ligaments croisés. Alors bon, il était suspendu pour le match, donc on savait qu'il serait pas là, mais c'était le meilleur rossonero depuis le début de saison, incontestablement le plus régulier. Lui qui était très irrégulier ces deux dernières saisons, je dirais pas qu'on pensait qu'il était fini, quoi, mais on disait que bon, vu sa façon de jouer et dépenser beaucoup d'énergie, etc., on se disait, bah, peut-être un peu à la manière d'un Didier Deschamps, si j'ose faire la comparaison, on disait peut-être qu'il va être cramé plutôt que les autres, quoi. Et puis finalement, maintenant, il s'était bien repris. Il a 30 ans, là, et il avait fait un super début de saison, et là, c'était gros coup dur quand on l'a perdu, et on comptait sur Flamini pour le remplacer, mais qui est un joueur pareil, super fragile, qui a souvent des petites blessures comme ça. C'est un peu énervant aussi. Et puis qui, en plus, c'est pas encore intégré parfaitement dans l'équipe. Donc au final, on s'est retrouvé avec Emerson. Voilà, qui n'est plus le joueur qui était il y a quelques saisons, et qui voilà, et c'était pas, et en plus des blessés, il y avait beaucoup de joueurs qui revenaient blessures. Ce soir, parmi les titulaires, faut savoir que Ambrosini, Pirlo, Ronaldinho, Zeidorf étaient blessés en début de semaine. Donc voilà, 4 titulaires sur 11. Plus toute la liste de blessés que je vous ai énoncé. Pato qui était blessé il y a 2 semaines aussi, qui revenait un peu. Et donc Milan était vraiment pas dans les meilleures conditions pour affronter ce match. Ce n'est pas forcément un alibi, mais voilà, c'est également à prendre en compte. C'est vrai qu'Ancelotti, il pouvait pas faire grand chose et aligner une équipe avec les joueurs qui lui restaient plus ou moins, quoi. Donc, tandis que la Juve était, elle, dans une période de forme assez éblouissante. Donc voilà, résultat final, défaite 4-2, et ça n'a pas pardonné, et la vérité du terrain a parlé. Oui, Dan ?
J'ai une petite stat, mais je peux pas confirmer la sûreté. Apparemment, on me dit que, en parlant de justement de du fameux, je sais pas comment on peut l'appeler, Gattuso, je sais qu'il avait un surnom en Italie, je sais plus exactement lequel, j'ai plus la mémoire, mais il paraît que tous les matchs où Gattuso a joué, le Milan n'a pas perdu.
C'est juste, ouais. Milan avait perdu trois fois avant cette défaite ce soir, les deux premières journées de championnat contre Bologne et Genoa, sur le score de 2-0 à chaque fois. Et à Palermo, il y a deux semaines, une défaite 3-1. Parce que ça coïncidait avec les trois matchs où Gattuso n'était pas sur le terrain. Et, bon, après, si on raisonne de ce point de vue-là, étant donné que Gattuso est indisponible jusqu'à la fin de saison, on espère que Milan va pas perdre tous ses matchs quand même. Ça serait dommage. Mais c'est généralement des stats révélatrices. Comme le Milan avait, et je crois que ça fonctionne aussi d'ailleurs, si je me trompe pas, le Milan avec Pirlo sur son terrain depuis le début de saison n'a pas gagné un match. Voilà. Et ça, je trouvais ça assez révélateur, parce que c'est vrai que Pirlo est un joueur qu'on a beaucoup exalté. Surtout après son mondial 2006, mais qui est un joueur terriblement irrégulier et qui, selon moi, a du mal à passer le cap de sa carrière, et qui d'un côté pénalise beaucoup le Milan dans sa façon de jouer. C'est un joueur qui, s'il n'est pas au top, sert pas à grand chose, parce qu'il va perdre beaucoup de ballons, il va pas être lucide, il va louper beaucoup de passes, et au final va pas servir à grand chose. En plus, au niveau des coups de pied arrêtés, on a bien vu que Ronaldinho était beaucoup plus efficace de ce point de vue là Donc voilà, ça c'est les deux petits, les deux stats qui, donc, selon moi, parlent beaucoup, quoi. Pirlo sur le terrain, le Milan ne gagne pas, et Gattuso sur le terrain, le Milan ne perd pas. Voilà.
Et donc au classement, la Juve qui récupère celle du Milan AC.
Alors au classement, il faut savoir que le Milan est désormais quatrième. Voilà. Et la différence de but battue par Napoli.
Non, je confonds. C'est, en fait, c'est le Milan AC qui laisse la place au Napoli. Excuse-moi.
Ouais. Donc l'Inter a 39 points, n'a perdu qu'un match, c'était le derby, et s'envole, selon moi, vers un quatrième scudetto consécutif. Je pense que oui, espoir.
Non, en fait, c'était justement pour te demander si tu pensais que quelqu'un pouvait arrêter l'Inter de Milan, quoi.
Moi je pense sincèrement que non, quoi, parce que Mourinho en plus est un spécialiste, hein, des championnats, quoi, et c'est un truc qui s'est très bien géré. Ils ont un effectif au-dessus de tout. Bon, rien n'est joué encore, quoi, mais là, ça, autant il y a quelques mois, il y a un ou deux mois, on se disait que c'était encore possible. Autant là, en plus, jusqu'à la fin des matchs aller, il leur reste deux matchs abordable face à Sienne, et donc trois matchs abordables, et ils vont peut-être encore accroître leur avance, tandis que Milan va rencontrer l'Udinese et Roma à la Fiorentina. Donc ils pourraient très bien, à mi-championnat, avoir déjà 12 points d'avance sur Milan, et puis la Juve, je pense qu'à la longue va avoir du mal à suivre, quoi, parce que elle va être, j'ai l'impression que les Juventini ont vraiment envie d'honorer la Champions League cette année, et ont peut-être plus se concentrer là-dessus. Et donc, comment dire, le Milan est désormais quatrième. Milan qui était, il y a un mois et demi, après avoir battu Naples, voilà, qui avait un point d'avance sur l'Inter, et qui a abordé une série de 5 matchs abordables. Excusez-moi pour la répétition. Avant les 4 matchs terribles de la fin des matchs aller, et sur ces 5 matchs abordables qui étaient contre Catania, Palerme, Chievo, Vérone, Torino, et le dernier m'échappe, ils n'ont engrangé que 8 points sur 15, alors que, bon, on sait très bien que les championnats se gagnent contre des petites équipes. Espoir, t'avais une question?
Mais en fait, je voulais dire, parce que il semble un peu inarrêtable en championnat, mais pourtant en Ligue des Champions, c'est pas vraiment l'équipe qui fait vraiment peur, enfin en tout cas dans les derniers matchs qu'ils ont fait, quoi. Parce que
Ah
j'ai
oui.
l'impression que dès le moment où ils savaient qu'ils étaient qualifiés, on dirait qu'ils jouaient plus, et puis justement, ils attendaient juste la fin des matchs de poule, quoi.
Ouais, ça c'est un peu un des mystères. Hein. Voilà, quoi, de l'Inter, quoi, depuis quelques saisons. Enfin, depuis tout le temps d'ailleurs. Mais surtout ces dernières saisons, quoi. Champion d'Italie et éliminé régulièrement en huitième en quart de finale de la Champions League. Et on pensait qu'avec. Bon, même si c'était que la phase de poule, on savait qu'avec Mourinho, ça aurait été différent. Mais voilà, tu dans un groupe. Un groupe limite d'inter de coupe intertoto, l'Inter se qualifie avec 8 points et en perdant ces deux derniers matchs et en ayant même failli perdre contre les Chypriotes. Donc bon, après voilà, février ce sera une autre période et puis ouais, je pense que l'Inter est quand même capable de battre tout le monde, donc voilà, je pense qu'aussi Mourinho n'a pas voulu forcer, c'est un gars très malin, donc peut-être que Pierrot va confirmer, je sais pas.
Oui, je crois surtout que Mourinho, voyant les équipes qui allaient finir deuxième, il préférait se taper les équipes des premiers de poule en fait.
Ouais, je sais pas ça, tu vois, parce que franchement, si tu regardes bien, c'est quand même kiff-kiff, quoi. Je sais pas,
Puis
hein,
on va pas tomber
il a quand
contre
même
le
le.
Barça, quoi. Enfin,
Ben.
c'est possible,
Voilà,
quoi.
ouais, là l'Inter est deuxième, donc il risque de se prendre de jouer le Barça, de jouer Manchester, de jouer Liverpool, si je me trompe pas. C'est ça? Donc bon, je sais pas
Et
si au final
Bayern.
c'est. Voilà, ouais, donc je sais pas. Non, mais je sais pas si au final c'est beaucoup mieux, quoi. Donc même la Roma, quoi, qui est pas une équipe évidente. Ah non, ils peuvent pas jouer la Roma,
Non,
c'est ce que je
non.
dis. Donc ouais, je sais pas si c'est vraiment des calculs, quoi, parce que bon, je trouve qu'au final, dans chaque chapeau, il va y avoir, ça va être équilibré et je pense pas que le deuxième, ça aurait été une meilleure opération. Pour conclure, ouais, tu veux parler de Figo, Pierrot?
Ouais, bah pour bien faire, hein, vu qu'il nous écoute ce soir, je vais citer West. Figo a plus montré en 20 minutes que Mancini et Quaresma depuis le début de la saison. Je pense que ça représente bien le génie qu'a Figo.
Ouais, c'est vrai, ouais. Et bien, tu fais bien de parler de ça en plus parce que ça devait être la définition tactique, on va dire, de l'Inter, c'est-à-dire Ibrahimovic assisté de deux ailiers, donc le 4-3-3 mourinhesque, et Mancini Quaresma qui n'avait pas trop mal démarré, enfin Mancini, et au final, doucement mais sûrement, on glissait sur le banc. Et voilà quoi, et ils sont pas convaincants, et c'est pour les deux joueurs, je crois, ils ont dépensé au total dans les 35 millions d'euros, quoi, pour Mancini et Quaresma, deux joueurs qui pour le moment.
40 même. C'est
Mancini,
20 et
je crois que c'est
18.
12 millions.
Ah, c'est 12. D'accord.
Ouais,
Je pensais que
ouais.
c'était 20.
Non, 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 non.
Ouais, bah
Et voilà.
ça fait 30, 35, ouais.
Voilà, c'est ça, pour deux joueurs qui au final finissent sur le banc, alors que Figo, comme tu dis, est une valeur sûre qui. Puis de toute façon, le talent, ça ne se
On
perd
n'a
pas,
pas
quoi. Pour.
d'âge.
Voilà, exactement. Pour finir sur la Serie A, je voulais rappeler un peu les faits marquants du week-end. Je ne sais pas si vous avez vu, enfin les assidus de la Ligue 1 seraient très étonnés en regardant le classement des buteurs. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, je crois, enfin lors de mon inter dernière intervention. De voir Marco Di Vaio en tête du classement des buteurs, bon, certes égalité, qui a inscrit un triplé ce week-end. Voilà, alors je ne sais pas si pour lui on peut dire le talent n'a pas d'âge, parce que c'était pas non plus un joueur extraordinaire, mais bon, voilà, ça, il a 32 ans et il vit une seconde jeunesse et c'est très bien ainsi, j'ai envie de dire. Donc il a mis un triplé ce week-end. Il y avait espoir qu'il y avait une question.
Ouais, et puis en parlant de, je sais pas si c'est une surprise, mais 41 buts en Serie A en un week-end, est-ce que c'est pas un des records de
Oula,
ce
bah tu vois,
championnat?
j'avais même pas fait gaffe, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, bah j'ai rarement vu ça. Bah, j'essaierai de trouver la stat avant si on fait le Tour d'Europe vendredi, quoi, pour en parler, quoi. Mais effectivement, ouais, C'est peut-être bien la première fois que je vois la barre des 40 buts passer depuis un petit moment, quoi. Non,
C'est
mais
pas en Ligue 1 qu'on peut arrêter.
Comme quoi le Catenaccio, c'est quand même bel et bien révolu.
Ouais.
Les autres faits marquants, une nouvelle victoire de la Roma, sa cinquième victoire consécutive en Serie A, si je ne me trompe pas. Les Romains se replacent très bien puisqu'ils remontent à la 10e place du classement avec un match de retard. Donc sont virtuellement à 4 points de la zone Champions League, eux qu'on avait quand même gentiment enterrés, hein, il faut le dire, en ce début de saison, et qui grâce à un nouveau coup de maître de Spalletti, et grâce surtout au retour de Francesco Totti, se sont très bien relancés, et je pense que c'est une équipe aussi à prendre très au sérieux pour ce qui concerne, excusez-moi, la Champions League. Et puis, il y a eu un match intéressant, c'était l'Udinese contre la Lazio. Intéressant dans le sens où l'Udinese a mené 3-0 et la Lazio est revenue. Voilà, ils sont 10e à la Roma, si je n'ai pas précisé. La Lazio qui a marqué 3 buts en deuxième mi-temps et qui a accroché un joli match nul. Et la Fiorentina qui continue sa belle saison. Je disais hein, tout à l'heure que. Donc la Fiorentina qui a vaincu à domicile en Serie A, et je disais tout à l'heure que la victoire de l'Olympique Lyonnais il y a quelques semaines sur le terrain à l'Altemio Franchi à Florence n'était pas un mince exploit. La Fiorentina s'est imposée cet après-midi 2-0 face au Catania, des buts des inévitables Gilardino qui continue de confirmer sa renaissance. Et de Adrian Mutu, le sniffer de cocaïne. Ouais, Dan.
Oui, puisque on va rappeler la stat, hein. Je crois que c'était vers janvier ou février de 2008, donc presque un peu moins d'un an, où la Fiorentina était quand même invaincue à domicile, et tu m'avais rappelé
Voilà.
que la dernière défaite, c'était...
Contre le Milan AC, voilà. 1-0, but de Pato dans les dernières minutes du match. Mais effectivement, voilà, c'est la seule défaite sur leur terrain des. Enfin, l'OL est la seule équipe d'avoir battu la Fiorentina. On va dire, allez, oui, sur les 12 derniers mois, plus ou moins, quoi. Donc, comme quoi, c'était pas. Alors non, je ne sais pas pourquoi Moutou n'a pas son vrai nom dans FIFA. J'imagine que c'est une question de droit et que la fédération roumaine n'a pas lâché. Ah, ou peut-être lui, droit d'image, quoi. Je me souviens.
Non, c'est juste lui. Hein.
Bah, c'est le seul joueur pourtant.
Ouais, mais tu parles de ça, je me souviens, je sais plus. Je crois que dans des vieilles éditions de FIFA, Djorkaeff n'avait pas son vrai nom non plus, tu vois. C'est un truc
Materazzi.
qui m'avait choqué à l'époque. Comment?
Il y avait Materazzi aussi
Alors
jusqu'à
Materazzi, lui,
2006.
il l'avait même pas mis dans le jeu, tu vois, je crois. Non? Il n'y a pas un
Ouais.
truc comme ça?
Crois.
Comme quoi,
Ouais, pardon.
l'affaire Zidane Materazzi avait viré au grand n'importe quoi. Ah ouais. Materazzi, paraît-il, a été copieusement sifflé à Brême mercredi dernier. Voilà, donc à croire que tout le monde. Même les supporters de voilà et donc oui bah, donc le classement donc l'Inter 39 points, la Juve 3 points et Naples et le Milan se partent à la troisième place avec 30 points et la Fiorentina est en embuscade avec un point à un point de ces deux équipes et le Genoa est sixième avec 26 points. Voilà, dans la zone rouge on retrouve le Torino qui est toujours en crise malgré d'avoir changé d'entraîneur. Et puis la Reggina et le Chievo Vérone, bon dernier avec 9 petits points. Voilà, messieurs.
Parfait, ben on te remercie Billy pour ce championnat, d'avoir été complet pour ce magnifique championnat d'Italie, la Serie A. Donc Naples est sur le podium et bien sûr, tu l'as dit, hein, l'Inter et la Roma et la Juve qui gagnent aujourd'hui et peut-être espoir la relever, peut-être un record de buts, je pense pas, mais bon. En tout
Oh,
cas,
c'est
ben,
déjà
je me
pas mal,
renseignerai,
hein. Je me renseignais, tiens, je me renseignais en live et je vous dis ça, quoi.
Parfait, on en a été complet. En tout cas, Billy, on te remercie. Et donc, c'est Espoir qui va prendre la suite pour la Bundesliga. On a parlé du Bayern.
Donc ouais, je vais parler de la Bundesliga. Donc c'était la 17e et dernière journée de cette première moitié de championnat. Donc oui, on est en championnat qui finit quand même assez tôt. Hein. Mais, donc voilà. Donc d'abord, qui est tout le monde va vouloir savoir le résultat de Hoffenheim, mais d'abord je vais commencer bien sûr par le Bayern de Munich, qui se déplaçait à Stuttgart avec des intentions. Comment dire, je pense qu'il voulait avoir les 3 points pour venir voir le match de Hoffenheim qui jouait aujourd'hui face à Schalke. D'abord, je vais juste vous dire les buts qu'il y a eu dans cette rencontre. Donc, à la 46e minute, ouverture du score pour Stuttgart. Donc, 46e minute, c'est dans la première mi-temps, c'était en temps additionnel. Sur un corner, Guedira est bizarrement seul et marque d'une tête plongeante qui crucifie Rensing. Ensuite, retour des vestiaires à 48e minute, corner droit sur Odo qui passe à Schweinsteiger qui tente un tir croisé mais qui le loupe. Mais c'est mal renvoyé par Lehmann dans les pieds de Borowski qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. À la 66e minute, contre, on va dire, le cours du jeu, hein, il y a un contre bien mené par Philipp Lahm. Philipp Lahm qui, sur son côté gauche, est impérial, qui passe à Borowski, qui centre pour Tony et qui frappe directement et qui trompe Lehmann, qui prend un contre-pied Lehmann. Et à la 90e minute, égalisation du score pour Stuttgart. C'est un corner tiré. Je ne me souviens plus du joueur, excusez-moi, qui est mal renvoyé par Rensing, encore une fois, évidemment. Il a beaucoup de problèmes sur ses sorties aériennes, qui revient dans les pieds de Guedira, qui envoie un boulet de canon juste sous la latte, et ça fait 2 à 2 pour Stuttgart. Les faits marquants du match, c'est que le match est très tendu. Il y a des fautes de part et d'autre. Si on regarde les statistiques, il y a quand même eu 41 fautes durant le match. Il y a eu 6 cartons, et dont un carton rouge à la 85e minute, carton rouge qui a été donné à Odo. Comment expliquer ce carton? On va dire que c'est un jeu dur qui méritait un carton jaune, mais le carton rouge en aucun cas, parce que c'est une balle, c'est une transversale d'un joueur de Stuttgart. Odo va essayer de contrer le ballon, comment dire, en regardant le ballon sans voir le joueur qui va prendre le ballon et qui lui rentre dedans avec le pied en avant. Donc ça fait carton rouge un peu contestable. Ce qui est bizarre, c'est qu'à partir de la 85e minute, Lehmann, le gardien de Stuttgart, commence à monter sur les corners. Ce qui est quand même assez rare. Normalement, le gardien commence à monter à partir de la 90e, quoi, et encore. Donc voilà, c'était un fait marquant dans ce match. Match très engagé, avec des joueurs comme Van Bommel, qui a la réputation d'être un joueur, comment dire, qui a un jeu dur. Rien qu'à la 86e, justement, Lehmann monte sur un corner et au moment de se replacer dans ses buts, fout une claque à Van Bommel. Donc ça montre quand même la tension dans ce match. Donc le score final, c'est 2 à 2. Match nul qui est quand même immérité, on va dire, du côté du Bayern de Munich, parce que Stuttgart a quand même largement dominer son adversaire. Pour preuve, 25 tirs contre 7. Donc il n'y a pas photo, sauf que le Bayern a été plus réaliste. Donc voilà. Après, je vais vous parler justement de Hoffenheim, ceux qui créent la surprise dans cette Bundesliga. J'ai pas regardé tout le match,
Excuse-moi, Espoir, de te couper.
Pardon,
J'avais
excusez, j'ai
juste
pas
une...
vu. Oui.
Non, j'avais juste une petite curiosité, je voulais te demander si Bayern Stuttgart, c'était vu la relative proximité des deux villes, c'était pas un derby, tout simplement.
Non, c'est plus. Alors, une affiche, oui, mais pas un derby. Les derbies, pour le Bayern, c'est donc Munich 1860 et Nuremberg.
Ok, très bien.
Stuttgart, c'est plus une affiche, quoi. Je vais juste revenir sur ce match parce qu'on avait donc Franck Ribéry qui était absent. Donc, pour beaucoup de monde, ils vont dire ils n'avaient pas Franck Ribéry, c'est pour ceux qui ont fait 2 à 2. Bah, on peut dire ça, mais bon, enfin moi je suis pas vraiment indépendant de Ribéry, donc pour moi c'est pas ça qui nous a fait ce match nul, c'est aussi peut-être les choix de Klinsmann de mettre Borowski, même s'il marque un but et qu'il fait un assist, pour moi c'est Hautol qui aurait dû jouer, mais bon ça c'est mon avis personnel. Alors bon, je vais venir sur le match de Hoffenheim-Schalke qui s'est disputé aujourd'hui, pardon. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pas regardé en entier le match, donc je vais pas pouvoir vous le commenter vraiment. Mais Hoffenheim a dominé complètement son sujet d'aujourd'hui. On voyait, enfin, Hoffenheim joue un des meilleurs footballs de Bundesliga, et ça se voyait donc justement lors de ce match. Les buts ont été marqués par Asamoah à la 40e minute pour Schalke, donc contre quand même le cours du jeu, parce que Hoffenheim domine, 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 et pour finir, c'est Schalke qui ouvre la marque. Je vous ne cache pas que j'étais content, parce que justement, Hoffenheim, c'est quand même un concurrent direct pour le Bayern. Ensuite, j'ai pas vraiment bien vu la deuxième mi-temps, mais apparemment il y a eu donc deux expulsions donc de Jones et de Engelhardt pour Schalke. Comment dire, c'est donc deux fois double carton. Jones se prend son deuxième carton jaune sur une protestation vraiment inutile, mais je le comprends parce qu'il n'y avait pas du tout. Oui? Quelqu'un veut parler? Non? D'accord. Bon, alors je continue, excusez-moi. Jones a fait un tacle tout à fait correct. Il touche pas une seconde la jambe et l'arbitre, qui était pour ma part un peu pourri durant ce match, enfin en tout cas pour ce que j'ai vu, et siffle faute et Jones pète un peu les plombs et donc ça fait. Il joue à 10 contre 11. Et après Engelhardt, ces deux cartons sont justifiés, donc là, rien à dire. Et à la 72e, Teber, le joueur d'Offenheim, égalise pour Offenheim. Donc le score final est de 1 partout, ce qui fait qu'au classement, bah, Offenheim termine champion d'automne. Pour moi, ça veut pas dire grand-chose. J'ai eu des potes qui m'ont un peu chambré, machin, Hoffenheim premier. Bon, c'est grâce à la différence de but, hein, donc 19 buts pour Hoffenheim et 15 pour le Bayern. Donc voilà, ensuite, je vais vous dire un peu le classement si vous n'avez pas de questions. Donc pas de questions. Donc le Hertha Berlin qui est troisième. Suite à sa victoire 4 à 0 contre Karlsruhe, Hambourg qui finit quatrième, Leverkusen, l'équipe de Dizzy qui est cinquième. Oui, Dan.
Bah, on peut parler du Bayern de Munich qui reste quand même sur 11 matchs sans défaite dans ce championnat. Puis le Werder de Brême qui au classement fait remonte un peu, non?
Le Werder de Brême, c'est quand même un peu une déception parce que on connaît quand même un peu le standing du Werder. Finir huitième, c'est pas non plus, pardon. Huitième, c'est pas vraiment sa place. Et puis par rapport au Bayern, ben le Bayern qui fait une très bonne fin de championnat, mais qui perd quand même des points contre le Borussia Mönchengladbach, où il y avait eu 2 à 2 alors qu'on gagnait 2 à 0, ce qui était quand même décevant. Et là, contre Stuttgart, on fait un match nul alors qu'on gagne 2-1 jusqu'à la 90e minute. Oui, Dan, t'as une question?
Il y a quand même l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Enfin, c'était un joueur que beaucoup avaient oublié, Ibisevic, qui est quand même avec 18 buts, qui est le meilleur classement des buteurs, tu l'as dit, devant Patrick Helmes.
Oui.
Qu'est-ce que tu peux nous dire vite fait par rapport à ce joueur-là?
Bah donc, comme tu as dit, Ibisevic, c'est, en 17 rencontres, c'est 18 buts et 7 assists. C'est quand même, enfin moi je trouve ça impressionnant. C'est impressionnant. En plus, il évolue dans une équipe néo-promue. Ibisevic, à part contre le Bayern, où donc il a marqué une fois, mais sur une faute. Sinon, je te dis franchement, je le suis pas vraiment, puisque justement moi je suis principalement le Bayern de Munich et Hoffenheim, c'est pas vraiment ma tasse de thé, même s'ils sont premiers au classement. Donc à part justement les 18 buts qu'il a marqués, et ça fait donc plus d'un but par match, et les 7 assists qu'il a fait, je peux pas vraiment t'en dire plus par rapport à Ibisevic. Je pense que Dizzy pourra plus t'en parler s'il y a un Europe de Soccer ou comme ça.
D'accord, et puis parle-nous de Podolski, dont on a parlé récemment à l'Olympique de Marseille.
Voilà, alors j'ai donc lu cette j'ai vu cette information sur Soccers. Je vais pas critiquer la Ligue 1, mais je pense que si il part à l'OM, c'est quand même un peu un pas en arrière. C'est mon avis, quoi. Autant qu'il retourne, pour moi je préfère qu'il retourne dans son ancien club à Cologne. Je sais pas en France comment vous voyez cette information. Je sais pas si tu suis l'OM, quoi.
Personnellement, ouais, enfin je suis l'OM, je suis en gros la Ligue 1, mais c'est vrai que c'est un peu comme ce que j'avais dit à l'antenne il y a quelque temps, en parlant de noms souvent cités à Marseille, même à Lyon, on a parlé de Trezeguet à Marseille, on a parlé de Love, voilà, qui est un Brésilien. Voilà, enfin on cite pas mal de noms, et au final il y a rien. Bah, tu parlais de la Ligue 1, c'est vrai que je parle par exemple de Graffit, hein, l'ancien Manso qui explose à Wolfsburg, quand même, qui avec quelques buts, qui fait quand même les bons jours de son club.
Tout à fait. Donc Graffiti, qui est un très bon joueur, à Wolfsburg, il est titulaire indiscutable. C'est un joueur qui marque beaucoup de buts. Par contre, je pourrais pas te dire combien il a marqué de buts, mais je peux le trouver assez rapidement.
Ouais, il est dans les moins de 10 buts, c'est sûr. Peu importe, mais en tout cas, voilà, il y a quelques Français, enfin quelques personnes qui sont, je vais les citer, hein, qui étaient dans la Ligue 1 et qui sont passés dans, qui réussissent pas mal dans ce championnat. Et ben, il y a Graffit, hein, qui a 22 ans, qui est l'attaquant de Wolfsburg. Il y a Guy Demel, qui a 27 ans, qui est Hambourg, hein, défenseur souvent joué au milieu de terrain aussi. Il dépanne beaucoup. Puis il y a Marco Pantelic, hein, tu auras l'occasion de nous en parler, qui est un attaquant qui a beaucoup d'expérience, qui a 30 ans, qui est passé par le Paris Saint-Germain, mais qui n'aura pas marqué son empreinte là-bas. On sait que c'est difficile. Puis il y a Mathieu Delpierre, hein, 27 ans, Stuttgart, le défenseur. Voilà.
Et il y a aussi donc Alexander Frey, qui est passé donc de Rennes à Dortmund.
Exactement. Mathieu Delpierre, qui était à Lille, hein, entre 99 et 2004, entraîné par l'ancien entraîneur de Lille et du Paris Saint-Germain, j'ai nommé Vahid Halilhodžić. Puis ben tu l'as dit, hein, Vedad Ibisevic, 24 ans, qui joue attaquant à Hoffenheim et qui fait les bons jours de Fenerbahçe, puisqu'il est bon, même s'il est en tête des buteurs, il avait marqué l'unique but pour son club face au enfin dans, dans le dans ce vraiment de dans ce vrai sommet de Bundesliga où vendredi un certain vendredi soir je crois il y a une semaine pour la victoire du Bayern Munich de Buzyn avec le la le but assassin on va dire de Tony, n'est-ce pas Espoir?
Tout à fait. Et par contre, donc Graffité, hein, il a marqué 11 buts, si jamais, pour information. Moi, je veux juste quand même revenir sur les équipes qui sont quand même mal classées. Donc, je voudrais parler quand même de Schalke, qui est à la 7e place avec 27 points. Et seulement 7 points en 6 rencontres. En sachant qu'ils n'ont pas de coupe européenne parce que donc ils se sont fait éliminer au troisième tour de la Ligue des Champions. Ensuite on a donc comme tu l'as dit le Werder Bremen. Pour moi c'est une décevante 8e place malgré leur victoire donc 2-1 contre Wolfsburg 2-1 et peut-être que la qualification pour la Coupe de l'UEFA qu'ils ont eu contre l'Inter et la victoire là contre Wolfsburg bah, va peut-être les réveiller. Bon, je vais donc revenir, je vais vous dire un peu le classement. Donc en haut de classement, donc on a Hoffenheim et le Bayern de Munich, premier ex-aequo avec 35 points, mais Hoffenheim champion d'automne grâce à sa différence de but. Le Hertha Berlin qui fait une bonne première moitié de championnat, qui est troisième avec 33 points, égalité avec Hambourg. Leverkusen, l'équipe de Dizzy, avec 32 points, termine cinquième. En bas du classement, on a NRJ Cottbus, 16e et premier relégable avec 13 points. Bochum, 17e avec 11 points. Et le Borussia Mönchengladbach qui ferme la marche avec 11 points. Voilà, bah.
Parfait. Et ben, j'ai une petite info qui est tombée il y a quelques jours. Apparemment, Klasnik, hein, l'ancien attaquant du Werder de Brême qui est à Nantes, apparemment il aurait la cote encore en Bundesliga. Et on parle de lui dans le fameux club de Mönchengladbach. Donc voilà, si tu as des infos, ça serait bien de nous en parler.
Mais cela m'étonne grand. Donc j'ai pas lu cette information, donc tu m'apportes l'information. Mais cela m'étonne quand même qu'il change de club comme ça, alors que le Borussia Mönchengladbach qui est quand même un peu en mauvaise situation, hein, 18e, relégable avec 11 points. Après, peut-être qu'ils vont se maintenir, ce qui m'étonne. Mais ça m'étonne que Klasnik revienne en Bundesliga, quoi.
Parfait. On va passer tout de suite. On te remercie Espoir. On va passer tout de suite avec Pierrot pour finir sur cette Liga Sagres et la Coupe du Portugal.
Ouais, c'était déjà les huitièmes de finale. Hein. Au Portugal, on prend de l'avance parce que la saison sera longue avec la superbe Coupe de la Ligue dont je parlerai aussi puisqu'il y a eu deux matchs aujourd'hui. Mais bon, je vais d'abord commencer par la Coupe du Portugal. Avec le grand favori qui s'annonce, c'est le FC Porto. Il s'est qualifié en battant Sinfange 4-1. Ils ont eu un match rapidement, je veux dire que c'était un match pas terrible. Hein. Enfin, c'était l'équipe B de Porto. Il y avait aucun titulaire. Non. Je cherche, mais non, aucun titulaire. Donc, noter. Deux buts de Guarín ou de Juarín, hein. Je préfère dire les deux, connaissant la susceptibilité de Marvolo. Hein.
Oui, mais il est pas là, tu peux en profiter.
Ouais, bah, trop tard. Voilà, donc Porto a eu du mal, c'est l'équipe B, donc on devine que c'est pas les titulaires et je pense que personne s'est dégagé du lot et enfin c'est souvent le problème avec Porto, c'est le banc. Donc à part Juarín, je pense, enfin, et Candeias aussi qui a été plutôt pas mal après son entrée, sinon je pense qu'il n'y a rien à dégager de ce match. Hein. Sinfange c'est quand même une équipe de 4ème division, donc je pense que tout le monde aura compris que la qualification de Porto est normale. Donc sinon, pas de grosse surprise, hein. cette équipe de première division qualifiée et une de troisième division. La seule équipe de troisième division qui reste, c'est Valdevez. Ça fera plaisir à Dizzy. Puis bah sinon, je parlais de ce qu'était le choc. C'est l'échouage contre Benfica, le deuxième du championnat contre le premier.
Voilà, donc c'est tout à l'heure je parlais de Porto, en fait je me suis trompé, oui, c'est Benfica hein, qui a été éliminé.
Exact. Un 0-0 plutôt ennuyeux, hein. On s'est pas trop amusé.
Comme la Ligue 1.
Voilà, ouais. Sauf que là, il y a eu les prolongations en plus, donc on s'est ennuyé pendant 3 heures.
Super, ouais.
on voit que. Ces deux équipes, on voit que l'échange et Benfica, ils jouaient tous les deux avec leur équipe type, donc c'était un match équilibré, c'est comme ça que ça finit en général, hein, c'est des 0-0. Et donc 5 tirs au but à 4. C'est le dernier penalty qui a été manqué par Reyes, ça aussi ça fera plaisir à Marvolo, qui adore Reyes. Et Reyes s'est loupé. Donc je vais rappeler les qualifiés. FC Porto, Naval, Estrella Amadora, Lechuange, Valdevez, Nacional da Madeira, Passos de Ferreira et Vitória Guimarães, qui a battu ce soir le Vitória Setúbal, sans surprise, hein, puisque Setúbal en championnat ils sont pas terribles, et Guimarães qui restait sur une victoire contre Lechuange, ce qui est plutôt un exploit. Donc et les deux matchs de Coupe de la Ligue, la Coupe qui sert à rien, puisqu'elle donne pas de place européenne, c'est juste pour faire rentrer des sous, hein. Enfin, comme le calendrier est plutôt dégagé, on peut se permettre ce Portugal. Donc le premier match c'était dans le groupe C, Olhanense qui s'est incliné face à Belenenses, logique, hein, une division d'écart, ça s'est vu. Et le match de ce soir, Sporting Portugal Maritimo. 3-0 pour Sporting, hein. Le Maritimo qui a pris 6 buts la semaine dernière, là ils en prennent 3, hein. Surtout que les buteurs c'est Yannick Diallo qui est pas réputé pour être un renard des surfaces, Lietzson et encore plus humiliant, un but de Romagnoli. Voilà, c'est tout pour ce week-end, il n'y avait pas une grosse actu au Portugal.
Parfait, à minuit 55, voilà, on aura fait 2 bonnes heures pratiquement. Alors qu'on n'était pas trop nombreux, mais quand même je vous remercie Pierrot, Espoir et Billy qui est parti d'avoir assuré cette émission. Voilà, on a fait une bonne quinzaine d'auditeurs. Je vous remercie vous les auditeurs qui nous écoutez, parce que c'est grâce à vous qu'on se défonce pour ce projet. Donc on vous dit à demain, puisque demain il y aura la spéciale Ligue 1, ouais, on va parler du 0-0, ouais. Non mais plus sérieusement, voilà, on parlera je pense de ce fameux quatuor en tête, on va dire, avec Lyon, Marseille, Bordeaux, Paris Saint-Germain, avec les surprises. On parlera aussi je pense du bas de classement, on parlera aussi de Lyon je pense, et puis ainsi de suite. Et donc minuit 56, et je pense que tout est dit, on va pouvoir rendre l'antenne. Donc je vous remercie encore une fois, et donc on se dit à demain, et puis juste à partir de là, restez bien à l'écoute, bye bye.